Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en Terre de Couleur. Une émission réalisée par Corinelle. En Terre de Couleur vous propose de flâner sur les traces d'un peintre à travers son histoire, son œuvre, ses musées. Je vous souhaite un agréable voyage dans l'univers de la peinture et spécialement pour cette série, au cœur de l'impressionnisme. Une touche de jaune de cadmium, un trait de Carmen Garance, une pointe de bleu de Prusse, un soupçon de blanc de titane, et voilà, la palette est prête. Prenons nos pinceaux, la toile encore vierge, et posons notre chevalet en terre parisienne. Bienvenue chez Oscar-Claude Monet. Peintre français, Paris 1840, Giverny 1926. Après son voyage en Hollande au printemps, Claude Monet va consacrer le reste de l'année 1886 à travailler en France. Durant l'été, à Giverny, il se remet à peindre des figures en pied, thème délaissé depuis une dizaine d'années.
Qui lui sert de sujet ?
Suzanne Ochédée est son modèle préféré. Elle pose au sommet d'un talus herbeux pour deux compositions qui ne sont pas sans rappeler le tableau « La promenade, la femme à l'ombrelle » de 1975 au National Gallery of Art de Washington, représentant Camille et Jean dehors par grand vent. Même silhouette, se détachant d'un ciel nuageux, drapé de blanc, tenant une ombrelle verte à la main, luttant contre le vent par une journée ensoleillée. Une seule différence pourtant, mais qui est de taille. Les traits de Camille offraient un regard vif, spontané, alors que ceux de Suzanne sont à peine esquissés, réminiscence d'un passé indélébile. Ces deux toiles en pendant, intitulées « Essais de figure en plein air vers la droite » et « Essais de figure en plein air vers la gauche » sont présentées au Musée d'Orsay à Paris. Elles figureront à l'exposition de 91 chez Durand-Ruel et seront les derniers portraits en plein air esquissés par Monet. Il écrira à Théodore Duré le 13 août 87.
Je travaille comme jamais et à des tentatives nouvelles, des figures en plein air, comme je les comprends, faites comme des paysages. C'est un rêve ancien qui me tracasse toujours et que je voudrais une fois réalisé. Cela m'absorbe au point d'en être presque malade. Escapade bretonne.
À la mi-septembre, le peintre décide de se rendre seul en Bretagne, et plus particulièrement à Belle-Île-en-Mer. Il prend le bateau à Quiberon, le 12 du mois, et débarque au port du Palais. Il ne s'y arrête pas, car trop bruyant pour lui. Il s'installe dans une auberge sur la route du phare. Elle est tenue par un pêcheur de Kervilaouen, sur la côte sauvage de l'île. Par tout temps, Monet est dehors. Emmitouflé dans des épaisseurs, il fait corps avec les intempéries. Le vent, la pluie, les embruns ne l'empêchent pas de sortir et d'amarrer son chevalet avec des cordes et des pierres au bord des falaises schisteuses. Dans une lettre à Alice Ochédée, le 11 novembre, il déclare
« Un temps ignoble, de la pluie, de la grêle, du tonnerre. J'ai reçu tant de grêle que ce soir la figure et les mains me font encore mal. Et par moments, je craignais que mes toiles ne soient crevées. »
À Durand-Ruel, qui lui conseille plutôt les paysages ensoleillés, il lui répond
« La mer est d'une beauté incroyable et peuplée de rochers fantastiques. Je suis enthousiasmé de cette terrible contrée, et cela parce qu'elle me pousse à sortir de ce que j'ai l'habitude de faire. Je dois avouer que j'ai bien du mal à rendre cet aspect sombre et effroyable. »
Pourtant, il va réussir à saisir cet océan bleu foncé, déchaîné, se fracassant sur les rochers déchiquetés, que ce soit dans les pyramides de Porcoton au musée Pouchkine à Moscou, ou Belle-Île au musée Rodin à Paris, ou encore Tempête, côte de Belle-Île, avec une mer verdâtre en furie, parsemée d'écume au musée d'Orsay à Paris. Monet n'hésite pas à peindre le même point de vue, sous des éclairages différents.
« Je fais 3 à 4 fois le même motif. De cette façon, il faudra que j'arrive à un résultat. »
L'idée des séries ne prendrait-elle pas forme ?
Rencontres multiples.
Il fait la connaissance de John Peter Russell, peintre australien, établi dans le village voisin, dont la compagne est modèle. Ils sympathisent, vont se promener ensemble, mais manquent une fois de se noyer, bloqués par la marée haute. Russell présente à Claude Monet un vieux pêcheur, Hippolyte Guillaume. Ce dernier, contre une pièce, lui fait découvrir les coins les plus sauvages de l'île. Polly l'aide aussi à transporter son matériel. Le peintre exécute son portrait au visage buriné et barbu dans des tons bleus et noirs. Polly, musée Marmottan à Paris. Monet fait la connaissance aussi de Gustave Geffroy, journaliste et critique du journal La Justice. qui lui consacrera par la suite une biographie. Claude Monet, sa vie, son œuvre, Paris, 1922. Débutant ainsi.
J'ai fait la rencontre de Claude Monet au mois de septembre 1886 à Belle-Île-en-Mer où j'étais allé passer mes vacances et me documenter sur Auguste Blanqui.
Pour information, Auguste Blanqui fut un homme politique français, théoricien socialiste, qui joua un rôle important dans la Commune et passa 36 ans en prison. Geffroy défend les impressionnistes dans sa Gazette, au même titre que les écrivains naturalistes, Émile Zola ou Octave Mirbeau, avec qui il est lié. Une amitié durable va unir Monet à son biographe. Le peintre va donc quitter Belle-Île avec une quarantaine de tableaux et rendre visite en partant à Octave Mirbeau à Noirmoutier. Ce dernier explique à Rodin en novembre 86.
Je suis allé passer 8 jours avec Monet dans son île de Belle-Île et je l'attends dans mon île de Noirmoutier. Il a fait de très grandes choses. Ce sera une façon nouvelle de son talent, un Monet terrible, formidable.
Voyage en terre de couleurs, les impressionnistes.
Début de l'été 87, le peintre Sargent est invité à Giverny. Il en profite pour peindre le tableau Claude Monet peignant à l'orée d'un bois. Rodin, le sculpteur, Mirbeau s'arrête aussi dans les lieux. Cette année-là, Monet participe à la 6e exposition internationale avec succès chez Georges Petit. Puis, il se rend à Londres et revoit le peintre américain James Abbott McNeill Whistler. Il l'a déjà rencontré en 1865 à Trouville, avec Courbet et Boudin. Grâce à Whistler, Claude Monet en profite pour être présent à l'ouverture de la Royal Society of British Artists Exhibition en novembre 87.
Après l'ombre, la lumière.
Il en profite pour repartir sur la Côte d'Azur de janvier à avril 88, 4 ans après son premier séjour. Le voyage s'effectue en train-couchette Paris-Marseille et arrive à Antibes le 14 janvier au soir. Il descend au château de la Pinède, conseillé par Maupassant. Vaste demeure à 2 étages qui fait office d'hôtel pour artistes, dont le prix de la pension est élevé. Henri Arpigny, âgé de 70 ans, peintre de plein air, admirateur de Corot, y séjourne avec ses élèves. Se retrouver avec une telle compagnie déplaît fortement à Monet, lui qui n'a jamais supporté l'esprit d'atelier. Il n'a plus qu'une idée en tête, fuir ce voisinage, être seul et trouver de beaux points de vue. Il écrit à Alice.
« Ne vous alarmez pas de me voir tarder, de me remettre à la besogne. Je sens que je suis plein d'ardeur, mais justement, je veux bien choisir mon coin. »
Et précisément, ces lieux, il va les découvrir. Comme le château d'Antibes, tout de bleu rosé, collection particulière. Le 20 janvier, il déclare.
« Je peins la ville d'Antibes, une petite ville fortifiée, toute dorée par le soleil, se détachant sur de belles montagnes bleues et roses, et la chaîne des Alpes éternellement couverte de neige. »
Autre tableau, Antibes, effet d'après-midi, au musée des arts de Boston. Une ville fortifiée jaune paille au bord d'une mer turquoise. Il essaie de capter la lumière méditerranéenne à travers des nuances pastels, roses, jaunes, crème, bleu pâle, en touches légères. Facture qui se retrouve aussi dans Antibes, vue du Cap, collection particulière. Il va peindre aussi 2 séries de la plage du Pontel et des jardins de la Salisse, et ramener ainsi 30 toiles. Pourtant, Monet traîne avec lui un sentiment d'échec, de mal-être, de doute, une impossibilité à saisir la lumière ambiante et la transposer.
J'entrevois bien ce que je veux faire, mais n'y suis pas encore. C'est si clair, si pur de rose et de bleu, que la moindre touche pas juste fait une tache de saleté.
Les correspondances restent tendues entre le peintre et Alice, restés à Giverny à broyer du noir. Le village est sous la neige, le marais gelé, et ses filles d'une vingtaine d'années sortent au bal en compagnie d'artistes américains. De plus, Ernest Ochédé est passé à Giverny, toujours marié à Alice. Bref, la tension est palpable, à Vernon et ici à Antibes, où Monet ne supporte plus l'entourage des élèves d'Arpigny. Rien ne va plus aussi avec le galeriste Petit, qui lui doit 2000 francs, ou avec Théo Van Gogh, qui veut acheter la toile vue de Bennecourt, mais pas au prix de Monet de 2000 francs. Pourtant, ces marines d'Antibes, nommées ainsi dans la revue indépendante par le journaliste et critique Félix Fénéon, fervent soutien de la peinture néo-impressionniste, vont remporter un franc succès.
Voyage en terre de couleurs, Oscar-Claude Monet.
Dès juin, une exposition privée a lieu dans l'entresol de la maison Bousseau-Valadon, anciennement maison Goupil, au 19 boulevard Montmartre. dirigé par Théo van Gogh, frère du peintre Vincent. 10 paysages ont été achetés à Monet pour 11 900 francs. Théo van Gogh s'engage à lui redonner la moitié des bénéfices sur les ventes. Cette manifestation obtient un véritable succès public, malgré quelques critiques de la part de ses pairs, tel Degas déclarant
« Il s'agit là d'un art de vente. »
Fainéant.
« C'est un travail plus vulgaire que jamais. »
Ou Pissarro.
« Il a toujours l'air un peu narquois. »
Heureusement, d'autres critiques lui apportent leur soutien. Geffroy, Maupassant, Mallarmé qui s'exclament.
« Monet a du génie. »
Ou encore.
« Je quitte l'exposition enchanté de votre travail de cet hiver. Depuis longtemps, je place ce que vous faites au-dessus de tout, mais je crois que vous vous trouvez dans votre plus belle période. »
Ou encore, Berthe Morisot. « Vous l'avez bien conquis, vous, ce public récalcitrant. On ne rencontre chez Goupil que des gens admiratifs au dernier point. C'est un éblouissement. » La cote de Monet ne cesse de monter. Il n'a plus qu'une envie, continuer et ignorer ses détracteurs. Il a même refusé d'exposer en mai chez Durand-Ruel. Maintenant, trois marchands d'art se partagent désormais les œuvres de Claude Monet, suivant l'humeur de ce dernier. Un Paul Durand-Ruel, ruiné par deux fois, un Georges Petit, d'une honnêteté parfois douteuse, et un Théo van Gogh plutôt entreprenant. La situation économique du peintre s'améliore sensiblement. En juillet 88, Monet repart à l'étranger pour un bref séjour à Londres et rend visite au peintre John Sargent en échange de sa venue à Giverny l'été précédent. Il est aussi reçu dans la maison de campagne louée par Sargent près de Reading.
Voyage en terre de couleurs.
En 89, la France est en pleine crise boulangiste qui conduira au suicide du général Boulanger en 91, scandale politique et financier du Panama. Néanmoins, le pays se prépare à l'exposition universelle et à la commémoration du centenaire de la Révolution. Les travaux de la Tour Eiffel touchant à leur fin, en vue de son inauguration prochaine. En ce début d'année, Claude Monet va effectuer un voyage en Creuse, dont je vous parlerai dans le prochain épisode. Mais pour l'instant, retournons sur les lieux de Giverny et son devenir.
Du côté du musée.
Giverny est un très ancien village situé aux portes de Vernon, autrefois important port de commerce. La commune fut le point de chute de nombreux artistes américains en recherche d'un maître auprès de Claude Monet, qui n'a jamais voulu assumer ce rôle. C'est Michel, le second fils, qui héritera de la propriété de Giverny, une fois son père disparu en 1926. Michel Monet, Blanche Ochédé Monet, sa belle-sœur, et Jean-Pierre Ochédé ont perpétué la mémoire du peintre. Au décès de Blanche en 1947, le jardin est presque abandonné et la nature reprend ses droits. Pour Michel, ce n'est pas aisé d'entretenir le jardin à distance. Il vient régler les soucis d'intendance tous les mois. En février 1966, après avoir rendu visite et pris le thé avec Germaine Ochédé et Salerou, il reprend la route et se tue en voiture à 88 ans à Vernon. La propriété de Giverny revient alors à l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France par testament. Elle est composée de la maison, d'ateliers et du jardin scindé en clos normand avec ses parterres de fleurs et le jardin d'eau avec ses végétaux orientaux, saules pleureurs et son pont japonais au-dessus des nénuphars. Les tableaux, quant à eux, reviennent au musée Marmottan. Mais la demeure et les ateliers souffrent d'humidité et le jardin est entretenu au minimum durant quelques années. En 1970, Jean-Marie Toulgouat, arrière-petit-fils d'Alice Monet, et un ami américain peintre font des relevés des jardins. James Butler, fils de Suzanne Ochédé Butler, botaniste, établit par saison la liste des plantes. Le sauvetage de Giverny peut commencer, grâce à la détermination de quelques hommes. En 1977, M. Gérald van der Kamp de l'Institut, aussi conservateur du château de Versailles, envisage de lever des fonds, grâce au soutien du monde entier, au mécénat, la fondation Claude Monet est créée en 1980. La propriété ouvre ses portes le 1er juin. Elle se trouve dans le département de l'Eure, en 45 minutes depuis la célèbre gare Saint-Lazare, chère à Monet. Notre voyage se termine pour aujourd'hui. Je vous invite à le poursuivre très prochainement sur cette même antenne pour un séjour en Creuse et de nouvelles expositions. Voyage en terre de couleurs, un programme Maurice Clément Fèvre, technique, participation, Pascal Laurière.